Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Voici les titres de votre journal. Israël va riposter après l'attaque de l'Iran ce week-end. Une annonce du chef d'état-major de l'armée israélienne ce lundi, Herzi Halevi. Une contre-offensive qui intervient malgré les appels de nombreux pays à éviter un embrasement dans la région. Nous ferons le point sur la situation dans un instant. C'est un procès historique, la première fois qu'un ancien président des États-Unis est jugé au pénal. Donald Trump comparaît devant la justice dans l'affaire Stormy Daniels. Alors quels sont les faits reprochés à Donald Trump et que risque-t-il à 6 mois maintenant de la prochaine élection présidentielle? Nous vous expliquerons tout dans ce journal. Faut-il armer les policiers municipaux? Près de 6 Français sur 10 y sont favorables, selon notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le Journal du Dimanche. Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté d'armer la police municipale. Nous vous emmènerons à Nantes, où la mairie socialiste va à l'encontre de la volonté des policiers municipaux d'être équipés d'armes létales. Et enfin, ces images qui ont fait le tour du monde. Il y a 5 ans déjà, un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame. Et aujourd'hui, les travaux avancent et l'enquête se poursuit pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame. La réouverture de Notre-Dame est prévue le 8 décembre prochain. À la une donc, le risque d'un embrasement du conflit au Moyen-Orient après l'attaque de l'Iran ce week-end. Le chef de l'armée israélienne a donc promis une riposte à cette offensive sans précédent. Une contre-attaque qui intervient malgré les appels de nombreux pays à éviter un embrasement dans la région. On fait le point sur la situation sur place avec Sarah Fenzari.
Il y aura bien une riposte selon le chef d'état-major de l'armée israélienne.
Nous regardons vers l'avenir, nous envisageons nos prochaines actions et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte.
Juste après cette allocution donnée devant des soldats sur une base touchée par une frappe iranienne, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a affirmé que tout sera fait pour protéger l'État d'Israël au moment et à l'occasion qu'ils choisiront. Cette attaque était présentée comme une opération d'autodéfense après la frappe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas en Syrie et imputée à l'État hébreu. Tsahal a affirmé que des terroristes étaient présents dans le bâtiment.
Il s'agissait de personnes engagées dans le terrorisme contre l'État d'Israël. Ces terroristes étaient accompagnés de membres du Hezbollah et de collaborateurs iraniens.
Benjamin Netanyahou appelle la communauté internationale à rester unie face à l'Iran.
Et dans ce contexte extrêmement tendu entre les deux pays, je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies. Gilad Erdan a comparé le guide suprême iranien à Adolf Hitler. Écoutez ses propos.
Le régime islamique d'aujourd'hui n'est pas différent du Troisième Reich et l'ayatollah Khamenei n'est pas différent d'Adolf Hitler. Le Troisième Reich d'Hitler était conçu comme un empire millénaire s'étendant sur plusieurs continents, tout comme Khamenei envisage que son hégémonie chiite radicale s'étende sur la région et au-delà.
Les alliés d'Israël, dont la France et les États-Unis, veulent à tout prix éviter un embrasement au Moyen-Orient. Le président américain Joe Biden s'est exprimé à ce sujet ce lundi depuis la Maison-Blanche et il a une nouvelle fois rappelé son soutien à l'État hébreu. Je vous propose donc d'écouter le président américain.
Les États-Unis sont déterminés à assurer la sécurité d'Israël. Nous sommes déterminés à obtenir un cessez-le-feu qui ramènera les otages à la maison et empêchera le conflit de s'étendre plus qu'il ne l'est déjà.
Ces images aux États-Unis des manifestants pro-palestiniens ont bloqué le Golden Gate Bridge à San Francisco. Des images aériennes montrent une longue file de voitures arrêtées sur ce célèbre pont rouge. Les manifestants ont empêché les entrées ou encore les sorties de la ville et les forces de l'ordre sont rapidement intervenues sur place. Un procès historique s'est ouvert ce lundi aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump est jugé pour une affaire de paiement. qui était destiné à acheter le silence de l'ancienne star du porno Stormy Daniels. Des paiements qui auraient été effectués à quelques jours de l'élection de 2016. Donald Trump dénonce une persécution politique orchestrée par Joe Biden. Alors concrètement, quels sont les enjeux de ce procès et quel impact pourrait-il avoir sur l'élection présidentielle qui aura lieu dans moins de 6 mois maintenant ? Élément de réponse avec Sarah Fenzari.
C'est un procès historique. La première fois qu'un ancien président des États-Unis est jugé au pénal. Donald Trump est arrivé au tribunal de New York pour répondre d'accusations de fraude en marge de l'affaire Stormy Daniels.
C'est une attaque contre l'Amérique. C'est pourquoi je suis très fier d'être ici. C'est une attaque contre notre pays et c'est un pays qui échoue.
Retour sur ce dossier qui éclabousse la campagne présidentielle américaine 2024 et son candidat républicain. L'affaire éclate en 2018 lorsque l'ancienne star de films pornographiques raconte à la télévision américaine avoir eu un rapport sexuel avec l'ex-président 10 ans plus tôt. En 2016, Michael Cohen, ancien avocat du candidat républicain, verse la somme de 130 000 dollars à l'actrice X en échange de son silence. L'affaire attire alors le regard curieux de la justice.
Il les a versés à Michael Cohen comme s'il s'agissait d'avances sur honoraires. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait en fait de rembourser l'argent qui avait été avancé par l'avocat. L'accusation est qu'il a falsifié les documents comptables de la Trump Organization.
Ce procès tombe en pleine campagne électorale, de quoi agacer le 45e président des États-Unis.
Ce procès est une escroquerie. Si vous lisez tous les experts juridiques, tous les juristes d'aujourd'hui, je n'en vois aucun qui dise que c'est une affaire qui devrait être intentée ou jugée. C'est une escroquerie. C'est une chasse aux sorcières politiques. Elle se poursuit et se poursuivra à jamais. Nous n'aurons pas droit à un procès équitable. C'est très, très triste.
Ses fans, eux, lui sont toujours fidèles.
Quand, sans lui, le pays sera transformé, les gens diront ce qui se passe, ce n'est pas juste, je leur dirai de se taire.
Le mania de l'immobilier est pour l'instant favorable dans les sondages, mais cette nouvelle affaire risquerait de le freiner dans la course à la Maison Blanche.
Et toujours à l'international, cette nouvelle attaque au couteau à Sydney en Australie. 4 personnes ont été blessées dans une église de la ville en pleine messe. Un suspect de 15 ans a été interpellé par les forces de l'ordre. Au moins deux policiers ont été hospitalisés lors de violentes protestations qui ont suivi cette attaque. Cette agression intervient 2 jours après une attaque au couteau qui avait fait 6 morts dans un centre commercial de la ville. Un acte terroriste d'ailleurs selon les policiers sur place. Actualité en France à présent, c'était il y a 5 ans déjà. Les flammes ravageaient la cathédrale Notre-Dame. Des images qui avaient ému bien sûr le monde entier, on s'en souvient tous. Et 5 ans après, les travaux avancent et l'enquête se poursuit pour tenter de comprendre l'origine de cet incendie. La réouverture de l'édifice est prévue le 8 décembre prochain. Tancrède Guillotel le sujet.
Quelques volutes de fumée, puis un gigantesque brasier. Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes, sa flèche effondrée. Le souvenir de l'incendie émeut encore les Parisiens qui avaient assisté médusés.
Je ne me suis pas sentie très très bien du tout parce que je voyais que ça prenait des proportions incroyables. Quoi. C'était affreux.
J'ai pu m'approcher avec le vélo et tout, mais je croyais que ça allait être la fin de Notre-Dame. Je ne suis pas du tout chrétien, mais j'ai cru que ça allait s'effondrer. Quoi.
Grâce aux presque 850 millions d'euros de dons recueillis à travers le monde, le chantier de reconstruction a ensuite été mis en place. Un travail titanesque, aujourd'hui bien avancé.
L'ensemble des vitraux est en place. En revanche, on les a complètement cachés pour justement éviter tous les dommages vu que les travaux se poursuivent au-dessus.
Les charpentes de la nef et du chœur ont été reconstruites à l'identique, comme la flèche, qui, ornée de sa croix et de son coq, a retrouvé sa place en février dernier. Les toitures doivent désormais être achevées avant la réouverture de l'édifice prévue le 8 décembre prochain.
Alors que les violences se multiplient partout sur notre territoire, on en vient à cette question. Faut-il systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux ? Eh bien, la réponse est oui. Pour près de 6 Français sur 10, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche. Et en déplacement dans l'Eure pour inaugurer une nouvelle brigade de gendarmerie, eh bien, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé sa volonté d'armer les policiers municipaux. Écoutez.
Je dis que chacun équipe la police municipale comme il l'entend. C'est l'article 72 de la Constitution, la libre administration des collectivités locales. Et en tant que ministre de l'Intérieur, si j'ai mon opinion politique, oui, je pense que les polices municipales doivent être armées. Dans les communes importantes, c'est un apport considérable qui aide la police nationale et la gendarmerie nationale. Mais encore une fois, l'article 72 de la Constitution permet à chaque maire de faire comme il l'entend avec son conseil municipal.
Certaines villes plutôt à droite équipent déjà leurs agents d'armes létales. D'autres mairies classées plus à gauche refusent toujours d'armer les policiers municipaux. À Nantes, où la vidéoprotection s'est largement développée ces dernières années, eh bien la police municipale est équipée de pistolets à impulsion électrique depuis fin 2019. Mais pas question d'aller au-delà, malgré les demandes répétées des policiers municipaux eux-mêmes. Le reportage sur place de Mickaël Chailloux avec Jean-Michel Decazes. Regardez.
À Nantes, les 130 policiers municipaux sont équipés d'un pistolet à impulsion électrique, modèle X2. Même si la municipalité socialiste a beaucoup évolué et investi sur la sécurité, équiper la police municipale d'une arme létale reste un tabou.
C'est une décision personnelle et politique, c'est ce que l'élu nous a rétorqué l'année dernière lorsqu'on lui a clairement posé la question du pourquoi on ne nous équipe pas d'armes létales. Tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui nous dépendons de la police nationale pour notre sécurité. Je voudrais simplement que mes collègues et moi-même puissions nous défendre et protéger les Nantais seuls.
Les fonctionnaires de la police nationale soutiennent la revendication des municipaux. Au syndicat Unité, on estime que la majorité municipale nantaise doit sortir d'une position dogmatique sur la question. Car la rue a évolué.
Pour les délinquants moyens, il n'y a pas de différence entre un policier municipal et un policier national quand il est dans la rue. C'est un uniforme. On a pu le voir dans des occasions à Nice notamment, où c'est la police municipale qui a été intervenue les premiers. Et s'ils n'avaient pas été armés, ils n'auraient pas pu neutraliser le terroriste.
Dans un sondage réalisé en interne il y a quelques jours, les policiers municipaux nantais se sont prononcés à 98% pour être équipés d'une arme létale.
Dans le reste de l'actualité, un nouveau record de chaleur a été battu samedi en France. La moyenne des températures relevées sur le territoire a atteint 17,9 degrés, ce qui n'était jamais arrivé donc avant un 15 avril. Météo France a également relevé plusieurs records localement. Le thermomètre a atteint 32 degrés par endroit sur le territoire. Nous sommes désormais à 100 jours maintenant de l'ouverture des Jeux Olympiques et l'inquiétude monte au sein de l'exécutif face bien sûr à la menace terroriste. Emmanuel Macron a assuré que plusieurs scénarios étaient envisagés pour la cérémonie d'ouverture. Si elle n'avait pas lieu sur la Seine, la cérémonie d'ouverture pourrait se tenir au Trocadéro ou voire même au Stade de France. Les explications signées Godéric Bay.
Un projet démesuré qui mérite un plan B. Sur le chantier gigantesque du Grand Palais qu'Emmanuel Macron a visité ce matin, le président a pris du recul sur la cérémonie d'ouverture prévue sur les bords de Seine. Face à la menace terroriste, il a évoqué des possibilités alternatives et moins ambitieuses.
On va se donner les moyens de faire une très grande cérémonie d'ouverture. Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli.
Emmanuel Macron a ensuite détaillé les deux scénarios envisagés.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Mmh. Et donc, on ne ferait pas toute la Seine si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voir... qui rapatrierait dans le Stade de France.
Même si l'option principale reste la priorité, le nombre de spectateurs bénéficiant d'une place gratuite pour assister à la cérémonie a déjà été divisé par deux, passant de 500 000 à 222 000 spectateurs.
Et puis cette information, la nageuse Laure Manaudou sera la première française à porter la flamme olympique. Elle prendra le relais du rameur grec Stéphanos Entouskos. Ça sera ce mardi après son allumage dans le site d'Olympie en Grèce. La flamme olympique prendra ensuite la direction d'Athènes avant de traverser la Méditerranée pour donc arriver sur le territoire français. Plus de 15 millions de touristes sont attendus cet été pour l'événement. Il y aura donc beaucoup de monde dans les rues mais aussi et surtout dans les transports. Et certains usagers de la RATP sont déjà inquiets. Ils craignent des perturbations et des problèmes de circulation. Corentin Brio.
Nichés dans les quais souterrains, les utilisateurs du métro ne peuvent pas s'empêcher de penser au chaos annoncé de l'été olympique qui approche à grands pas.
Oui, je serai là. Ouais, j'appréhende beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que je pense que ça va être un cirque indescriptible.
Le métro bondé, l'une des préoccupations des franciliens qui devront rester dans la capitale pendant la durée des Jeux Olympiques. Exemple avec la ligne 10 qui dessert Roland-Garros et le Parc des Princes, mais qui n'est pas dimensionnée pour les deux en même temps. Même problème avec la ligne 13, déjà au quotidien surchargée, qui desservira le Stade de France pleinement 3 fois par jour.
Je ferai mes 3 minutes de méditation à chaque arrêt.
Avec tout ce qu'on voit tous les jours, je trouve pas qu'ils sont prêts.
Prendre son vélo, marcher, télétravailler pour éviter les transports, ce sont les recommandations de la région Île-de-France. Mais certains ont opté pour une décision plus radicale, délaisser la capitale quitte à manquer la fête.
J'ai une maison à l'extérieur de Paris, je pense quitter Paris.
Je vais essayer d'être carrément en banlieue proche, de poser vraiment un congé pour pouvoir être en banlieue proche à ce moment-là.
Recrutement supplémentaire, nouvelle application et plus de passages. Toutes les solutions sont bonnes à prendre pour que le trafic ferroviaire parisien se passe cet été de la meilleure manière ou de la moins pire possible.
Ce triste constat, le nombre de morts sur les routes est en forte hausse en France, plus 31% au mois de mars par rapport à l'an dernier. 254 personnes ont été tuées sur les routes de France depuis le début de l'année, selon les estimations de la sécurité routière dévoilées ce lundi. Et enfin, ça y est, le contrôle technique des deux roues est obligatoire depuis ce lundi en France. Le prix de ces contrôles devrait être légèrement inférieur à celui des voitures. Ils devront être effectués pour certains avant le 14 août et pour les autres, ça sera d'ici la fin de l'année. Sachez que près de 2,5 millions de personnes sont appelées à effectuer leur premier contrôle technique. Jean-Michel Decazes, Mickaël Chaillot.
Moto, scooter, tricycle et même voiturette. Environ 3 millions de véhicules de catégorie L vont devoir passer le contrôle technique tous les 3 ans. Les engins immatriculés avant le 1er janvier 2017 sont les premiers concernés. Le CT devra être effectué avant la fin de cette année.
Là, on peut voir qu'il y a des petits points durs, donc ça, comme ici, donc là, c'est un défaut mineur.
En tout, 78 points de contrôle seront réalisés.
Pour les pneumatiques, pour le freinage, pour les joints de fourche, pour les disques de frein. Voilà, on verra s'il n'y a pas de fuite. Et en dernier élément, il va y avoir le bruit et la pollution.
La France, après avoir freiné sur la directive imposée par l'Europe en 2014, a dû s'y résoudre, ce qui met la Fédération des motards en colère hors d'elle.
C'est totalement inutile, parce que moins de 0,3% des accidents de moto sont dus à une défaillance technique. Tous nos éléments de sécurité sont visibles sur la moto sans aucun démontage.
Ceux qui ne se conformeront pas à l'obligation du contrôle technique risquent 135 euros d'amende et l'immobilisation du véhicule.
Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et le Paris Saint-Germain qui joue sa fin de saison ce mardi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Défaite 3-2 à l'aller face au FC Barcelone, les Parisiens vont devoir réaliser un grand match, bien sûr, ce mardi. Le PSG a des raisons d'y croire. Notre envoyé spécial, Olivier Talaron, nous donne tous les détails.
Il y en a plusieurs de raisons d'y croire. On va en sortir 4 aujourd'hui. D'abord, il n'y a qu'un but de retard. Hein. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas si difficile, on va dire, à combler. Hein. On sait qu'on ne va pas en reparler pendant 10 ans, mais c'est vrai que la remontada, hein, il y avait beaucoup, beaucoup plus à remonter. Les Barcelonais y sont parvenus. Donc là, il y a un petit but d'écart. Paris aurait pu finir au match aller la semaine dernière avec un ou deux buts de retard, avec 2 ou 3 buts de retard finalement. C'est la plus petit écart entre guillemets hein, pour les Parisiens, donc voilà une première raison. La deuxième raison, c'est que le FC Barcelone ne joue pas au Camp Nou, on est ici à Montjuïc, le stade olympique. Troisième raison d'y croire, le retour, on vient de l'entendre, d'Achraf Hakimi hein, qui a beaucoup beaucoup manqué au match aller. Et petite anecdote, on était tout à l'heure dans le taxi qui nous a amené au stade avec Nicolas Payard et on ne nous a absolument pas parlé de Kylian Mbappé. On nous a demandé, est-ce qu'Achraf Hakimi va être titulaire demain? On a l'impression que son retour change tout dans cette équipe du PSG. Et puis enfin, quatrième et peut-être la plus attendue des raisons, entre guillemets, eh bien, c'est la présence de Kylian Mbappé qui a manqué, on ne va pas le cacher, son match aller qui a été quasiment invisible. Et ce qu'on dit souvent, c'est que les grands joueurs ne ratent pas de matchs consécutifs. Alors on espère que Kylian Mbappé va montrer ce qu'il sait faire et va montrer que c'est l'un des 3 meilleurs attaquants du monde aujourd'hui.
Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, était en conférence de presse ce lundi. Il a évoqué notamment l'état mental et physique de son équipe. Ses joueurs sont prêts et vont le faire, ce sont ses mots.
se prepara el partido de la mejor manera, lo hemos hecho, hemos tenido tiempo para preparar mejor nuestra estrategia de ataque, nuestra estrategia de defensa, nuestra estrategia en lo que es el partido, y creo que, me repito por enésima vez, estamos preparados. No solo un jugador, no se trata de individualizar, todo el equipo, todos los que formamos el PSG y nuestros aficionados tenemos muchas ganas de todo el apoyo que recibimos en el Parque de los Príncipes durante todo el partido, devolverlo con una victoria. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
Allez, football toujours, on va parler Premier League. Ce lundi soir, Chelsea s'est imposé à domicile face à Everton, 6-0. L'ouverture du score de Cole Palmer pour les Blues dans le premier quart d'heure de ce match. Le jeune anglais s'offre un doublé 5 minutes plus tard avant d'inscrire le premier triplé de sa carrière, le tout en moins de 30 minutes de jeu. Chelsea est en balade sur sa pelouse de Stamford Bridge. Cole Palmer se permet même d'inscrire son quatrième but du match sur pénalty à la 64e. Au classement, Chelsea est 9e, loin des places européennes. Everton pointe à la 16e place de ce classement. Et on termine ce journal des sports avec du tennis. C'est une bonne nouvelle pour les fans de ce sport. Rafael Nadal a annoncé son retour sur les courts à Barcelone. L'Espagnol disputera son premier match depuis une défaite en quart de finale du tournoi de Brisbane en Australie. C'était au mois de janvier dernier. Rafael Nadal connaît bien la Catalogne puisqu'il est détenteur du record de victoires à Barcelone avec 12 titres. Actuellement 644e mondial, le Mallorquin espère revenir à son meilleur niveau, bien sûr, pour Roland Garros, qu'il a remporté, on le rappelle, à 14 reprises. Allez, voueurs, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Israël va donc riposter après l'attaque de l'Iran ce week-end. Une annonce du chef d'état-major de l'armée israélienne ce lundi, Herzi Halevi. Une contre-offensive qui intervient malgré les appels de nombreux pays à éviter un embrasement dans la région. Nous ferons donc le point sur la situation dans un instant dans notre prochain journal. Très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Et je vous dis donc à tout de suite pour une prochaine édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.